Bonjour Jean-Pierre Filiu.
Bonjour.
Historien, enseignant, spécialiste du Moyen-Orient, votre dernier livre a pour titre « Main basse sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste ». C'est paru aux éditions La Découverte, on va en parler longuement. Deux, trois questions d'abord d'actualité sur le voyage aujourd'hui d'Emmanuel Macron en Égypte. En quoi l'Égypte représente-t-elle un pôle de stabilité pour la France dans ce Moyen-Orient ?
C'est en effet la vision obligée, on peut dire un peu spontanée, voire pavlovienne. La réalité, c'est que le régime Sissi est beaucoup moins stable qu'il n'y paraît. Il a entretenu un niveau de répression inconnu dans l'histoire contemporaine de l'Égypte, avec des dizaines de milliers de prisonniers politiques.
Les ONG parlent de 60 000 prisonniers politiques. On est dans l'ordre de grandeur ?
Tout à fait, et avec un phénomène jusque-là inconnu, qui est un phénomène de disparu, qui s'apparente à ce qu'on a connu dans les années noires des dictatures latino-américaines, et une Égypte qui, au fond, se renferme sur son propre poids, ses problèmes internes qui sont énormes à la mesure de sa démographie galopante, sans doute 100 millions de femmes et d'hommes dans la vallée du Nil, et qui donne l'impression qu'elle pourrait se projeter à l'extérieur et qui en fait, dans la bande de Gaza, 2 millions d'habitants, est tout à fait impuissante, a décidé de s'abstenir d'intervenir au Yémen, qui est sans doute assez sage et qui, dans la crise syrienne, est totalement marginalisé. Donc attention avec l'idée du rôle régional de l'Égypte et de sa stabilité, peut-être en trompe-l'œil sur le plan interne.
Emmanuel Macron en Égypte, il y aura bien sûr des échanges commerciaux que la France et l'Égypte veulent renforcer. Une Égypte dont on dit qu'elle recueille en ce moment de bons résultats économiques. Au prix de quel sacrifice pour la population ?
Il faut voir que les données globales macroéconomiques masquent une inégalité abyssale entre ceux qui n'ont rien et moins que rien et les possédants, et dans ces possédants la caste militaire autour du maréchal Sissi, de sa famille et de ses complices se taille désormais la part du lion. Et puis signalons quand même, du point de vue de la stabilité en trompe-l'œil, que dans le Sinaï, un millier de partisans de Daesh continue à défier le demi-million de militaires de l'armée égyptienne, et cela depuis de longues années, malgré plusieurs offensives censées être toutes définitives.
Jean-Pierre Filiu, votre dernier livre s'appelle donc « Main basse sur Israël », un portrait à charge du Premier ministre Benjamin Netanyahou. La sortie de ce livre coïncide à, nous sommes à 4 mois, je crois, des élections législatives en Israël, on va en reparler, mais le vrai point de départ, vous le racontez dans votre livre, c'est en octobre 2015, après un amalgame historique de Benjamin Netanyahou, lorsqu'il dit que le grand moufti de Jérusalem, donc à l'époque le leader palestinien, avait inspiré la solution finale aux nazis. Le mensonge de trop, comme vous l'écrivez dans votre livre, ça avait provoqué un tollé en Israël. Qu'est-ce que ce mensonge historique raconte du personnage Benjamin Netanyahou ?
Nous sommes aujourd'hui en train de célébrer la journée internationale en mémoire des victimes de l'Holocauste. Effectivement, revenir sur ce mensonge d'État d'octobre 2015 est tout à fait nécessaire. Il faut savoir que mes collègues, les Israéliens du mémorial Yad Vashem, qui est donc entretient les mémoires de la Shoah à Jérusalem, avaient protesté vigoureusement contre cette réécriture de l'histoire. En deux mots, Netanyahou avait attribué l'inspiration des chambres à gaz à cette personnalité palestinienne en exil, comme si Hitler avait attendu cette suggestion pour enclencher la solution finale d'Auschwitz et d'ailleurs.
Qu'est-ce que ça dit du personnage Netanyahou, cette, non pas anecdote, mais cette séquence ?
Ah, c'est une volonté de réécriture de l'histoire juive, y compris dans ces moments les plus tragiques. Et on l'a vu en l'espèce, hein, pour nazifier, si j'ose dire, les Palestiniens et expliquer par ce mensonge d'État qu'il est impossible d'arriver à la paix avec eux. Mais plus récemment, on l'a vu en Pologne, en Hongrie, au nom de l'amitié qui le lie à ces régimes qui se proclament même illibéraux, eh bien, il exonère la Pologne collaborationniste, le régime collaborateur de Hongrie, de leurs responsabilités pourtant directes ou indirectes dans la Shoah.
Vous rappelez dans ce livre que Benjamin Netanyahou a un héritage familial révisionniste.
Alors, le révisionnisme, c'est une branche du mouvement sioniste, qui est une branche très ancienne, qui se constitue dès 1922 sous la tutelle de Zev Jabotinsky, son maître à penser, et qui est donc beaucoup plus radical, voire extrémiste, que le sionisme majoritaire, qui lui est d'inspiration travailliste, avec comme figure tutélaire David Ben-Gourion, qui sera le fondateur de l'État d'Israël en mai 1948.
Sauf que Ben-Gourion était un progressiste, on va en parler tout à l'heure, et que donc Benjamin Netanyahou a trahi les aspirations progressistes d'Israël. Un mot sur la brutalité que vous décrivez dans votre livre, la brutalité de Benjamin Netanyahou, un peu comme Donald Trump aux États-Unis. Il impose ses dogmes. Est-ce qu'il a une stratégie autre que celle qui tient en trois mots, éloigner les Arabes?
Ah oui, j'essaie justement de démontrer dans ce livre où j'ai beaucoup appris tout en recherchant, hein, c'est le charme des recherches fructueuses, qu'il a une vraie vision. Cette vision est construite, c'est une vision profondément pessimiste. Et là, vous évoquiez Trump, je vais un peu à rebours de mes collègues, de beaucoup d'observateurs qui considèrent que ces dirigeants populistes, ils sont un peu grossiers, un peu incontrôlables.
Vous dites qu'il faudra compter avec Benjamin Netanyahou.
Non seulement compter avec lui, mais le prendre très au sérieux. Je le pose déjà en refondateur de l'État d'Israël face au fondateur qui était Ben-Gourion. Ils ont d'ailleurs d'ores et déjà gouverné aussi longtemps l'État d'Israël.
9 ans de pouvoir, il a dépassé Ben-Gourion en termes déjà de longévité.
Voilà, en additionnant les différents passages au gouvernement, ils sont tous les deux à plus de 13 ans.
Benjamin Netanyahou, qui n'a pas beaucoup de scrupules, vous le rappelez, et vous racontez comment il a été à la manœuvre, notamment dans un terrorisme d'État avec ce qu'on appelle des opérations ciblées.
Oui, alors il y a les opérations ciblées dont on ne parle pas, ou dont on parle pour en célébrer le succès, puis il y a les énormes cafouillages, et Netanyahou est responsable d'un des pires de ce genre. C'est une tentative d'assassinat par empoisonnement,
par empoisonnement lent, oui. Voilà,
à Amman en Jordanie en 1997 d'un leader du Hamas, le mouvement islamiste palestinien. Il se trouve que les Jordaniens sont liés avec Israël par un traité de paix depuis 1994, qu'ils ont considéré cela comme un casus belli, qu'ils ont menacé de rompre la paix avec Israël, et que Netanyahou non seulement a dû livrer l'antidote et donc sauver le chef islamiste, mais aussi libérer dans la foulée une cinquantaine de dirigeants islamistes, dont le fondateur du Hamas, le cheikh Yassine, donc une opération qui a été totalement contre-productive.
Jean-Pierre Filliou, on va rappeler le titre de votre livre « Main basse sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste ». Vous nous direz aujourd'hui ce qu'il reste avec Benjamin Netanyahou du rêve sioniste. Jean-Pierre Filliou, professeur des universités en histoire contemporaine du Moyen-Orient à Sciences Po. On va reprendre cet entretien dans un instant avec Patricia Martin. À tout de suite.
France Inter. Le 6-9 du week-end.
Notre invité pendant une dizaine de minutes encore, l'historien spécialiste du Moyen-Orient, Jean-Pierre Filliou. Votre dernier livre s'appelle « Main basse sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste ». Livre paraît aux éditions La Découverte. Patricia Martin.
Oui, de quel point les intellectuels peuvent-ils peser, Jean-Pierre Filliou, quand on voit que la ministre de la Culture, Miri Regev, est générale de réserve, qu'elle a été censeur militaire, qu'elle qualifie les artistes, je la cite, de « cul serré, hypocrite et ingrat », qu'elle supprime des subventions à tour de bras, qu'elle a dit sa honte lorsque le film Foxtrot a remporté le Lion d'Argent à la Mostra de Venise en 2017. On se dit quoi? Tout ce qui n'est pas officiel est subversif?
C'est justement sa position, et face à cela, il est frappant et essentiel de souligner la résistance des intellectuels et des artistes israéliens. Mmh. Ces derniers mois, Amos Gitai, peut-être le plus grand cinéaste israélien actuel, était détenteur d'une chaire temporaire au Collège de France. Il avait explicitement refusé, lors de sa leçon inaugurale, que l'ambassadrice d'Israël à Paris soit présente, montrant sa défiance profonde à l'unisson de ses collègues artistes et intellectuels envers le gouvernement Netanyahou et ses représentants.
En 48, Ben Gourion proclamait l'égalité pour tous les citoyens d'Israël. À quel moment les idéaux progressistes les idéaux fondateurs d'Israël ont-ils dévié en Israël?
Donc le grand basculement, c'est 1977. C'est la victoire du Likoud, donc le parti à la fois de Netanyahou et du président Reuven Rivlin, qui remporte les élections. Et il faut savoir que ces élections sont déclenchées par la découverte d'un compte en devise de l'épouse du Premier ministre d'alors, Yitzhak Rabin, donc une violation de la réglementation d'échange qui fait que Rabin démissionne, alors qu'aujourd'hui les affaires dont Netanyahou est accusé sont sans commune mesure. Donc on a effectivement un tournant à droite, mais aussi une dégradation très sensible des valeurs morales dans la vie politique israélienne.
Et puis donc ces élections législatives israéliennes du 9 avril prochain, il s'agit d'élire ou de réélire 120 députés israéliens. Que risque le Premier ministre Netanyahou dans cette élection, qui est une élection législative et donc pas personnelle pour lui en principe?
Netanyahou a tout fait pour transformer ces élections dont il a fixé la date en dissolvant la Knesset, le Parlement israélien. Il a tout fait pour les transformer en référendum sur sa personne, ce qui va donc à l'encontre, vous le rappeliez, de l'esprit de ces institutions. L'enjeu est fondamental. C'est qui tout double pour lui. S'il est reconduit, effectivement, il est inscrit dans la durée, au-delà donc du record jusque-là détenu par Ben Gourion, sa vision très dure, très offensive d'Israël. En revanche, le président Rivlin a beau être du même parti que lui, il aura toute latitude après les élections pour désigner la personne qui formera le futur gouvernement.
Il faut préciser ça, la constitution israélienne n'impose pas au président de nommer un Premier ministre issu directement de la majorité parlementaire.
Voilà, donc il n'y a pas de constitution en Israël, il y a une série de lois fondamentales, d'où parfois le côté un peu empirique du fonctionnement politique israélien. C'est d'ailleurs ainsi que Netanyahou, en 2009, était revenu au pouvoir. Il n'était pas le chef du parti arrivé en tête à la Knesset, mais il apparaissait comme le plus à même de constituer une coalition. Aujourd'hui, la police israélienne a recommandé la mise en examen de Netanyahou dans 3 affaires de corruption particulièrement graves.
Il y a une dizaine d'affaires en tout, dont 3 qui pourraient déboucher sur des mises en examen.
Et on attend la décision du procureur général, si celui-ci décidait la mise en examen soit avant, soit juste après les élections, la possibilité pour Netanyahou de constituer le gouvernement serait très affaiblie. C'est pourquoi il a encore durci, il a encore brutalisé le débat politique en Israël en dénonçant un complot multiforme où, à l'encontre de toute évidence, la justice, les médias, les ONG, la police, et évidemment la gauche, et évidemment les Arabes, seraient ligués contre lui.
Absolument. Un mot sur le président israélien qui était cette semaine à Paris. Vous rappeliez qu'il n'a pas dit un mot à Paris de son Premier ministre.
Effectivement, j'ai été invité au dîner offert par le président Macron en son honneur, mercredi dernier. C'était très frappant d'entendre ce silence, hein, un président qui n'évoque même pas le nom de son chef de gouvernement en visite à l'étranger. Mais ce qui était encore plus frappant, c'est la façon dont Reuven Rivlin martelait que l'État d'Israël est juif parce que démocratique, et démocratique parce que juif, alors que Netanyahou, dans la loi fondamentale, donc à valeur constitutionnelle, qu'il a fait adopter en juillet dernier, n'a même pas mentionné une seule fois le terme de démocratie.
Ce qui vous laisse penser qu'effectivement, après les élections législatives d'avril prochain, il est plus que probable peut-être que Netanyahou ne soit pas reconduit?
Non, tout est ouvert. Il faut vraiment l'admettre. Mais il est certain que si le président Rivlin a la moindre chance d'empêcher le retour de Netanyahou au gouvernement, il la saisira.
Il faut rappeler aussi que Benjamin Netanyahou a quelques inimitiés au sein même de son propre parti, le Likoud. Pour quelles raisons?
D'abord, il sait parfaitement comment il est arrivé au pouvoir, hein, en éliminant, en marginalisant.
La trahison aussi?
Oui, mais je raconte dans un de mes chapitres non seulement son combat très dur contre Yitzhak Rabin, Premier ministre de 92 à 95, assassiné en 95, la veuve d'Yitzhak Rabin accuse Netanyahou d'avoir contribué au climat de haine qui a conduit à cet assassinat. Mais il y a aussi son combat continu contre Ariel Sharon.
Sharon, qui était dans le coma.
Qui est tombé dans le coma donc en 2006 pour mourir 8 ans après. Et le combat entre Netanyahou et Sharon, le combat pour l'âme du Likoud est très important. Il faut savoir que la dernière bataille de Sharon avait été la recomposition de la vie politique israélienne au centre et que cet acquis de Sharon, Netanyahou l'a pulvérisé dès qu'il est revenu au gouvernement en décidant de gouverner à droite, voire à l'extrême droite.
En avril, donc, ce seront les élections législatives israéliennes et un mois plus tard, ce seront les élections européennes dont Benjamin Netanyahou espère bien qu'elles donneront une large victoire au parti d'extrême droite. Un Parlement européen à droite-droite, ça aura quelles conséquences pour la politique européenne vis-à-vis d'Israël ?
D'ores et déjà, Netanyahou est un peu en train de mener en Europe une campagne comparable à celle qu'il avait menée contre Obama pendant les dernières années du mandat de celui-ci. Il a des alliés, il avait très clairement choisi le camp de Trump contre les démocrates aux États-Unis. En Europe, ses alliés, ce sont Viktor Orban en Hongrie, les populistes en Pologne, en Italie, et les ennemis qu'il désigne, c'est Bruxelles, évidemment, mais c'est aussi le tandem Macron-Merkel. Il se veut l'allié de la nouvelle Europe contre une Europe qui serait trop technocratique, trop bureaucratique, et qui surtout rappelle des positions de principe sur la solution aux deux États entre Israël et la Palestine et contre la colonisation en Cisjordanie et à Gaza.
Un dernier mot sur la diaspora israélienne dont Benjamin Netanyahou estime qu'elle est beaucoup trop à gauche, et notamment aux États-Unis. Il essaye de la museler, il essaye de la contre-tourner, de la contre-carrer. Est-ce qu'il y arrive ?
Jamais la rupture n'a été aussi forte entre Israël et la diaspora, et c'est Netanyahou qui est l'artisan de cette rupture. Il faut savoir que les instances représentatives de la diaspora juive ont marqué leur mécontentement de manière absolument inédite en nommant à la tête de l'agence juive, donc qui est chargée de l'immigration juive en Israël, le chef même de l'opposition israélienne, Yitzhak Herzog, en juin dernier.
On lira tout cela dans votre dernier livre, Jean-Pierre Filiu. Ça s'appelle « Main basse sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste ». Le livre paru aux éditions La Découverte. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur France Inter et bonne journée.